Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. L'aide médicale d'État, c'est-à-dire la possibilité pour des étrangers de venir se faire soigner gratuitement en France, est un sujet récurrent du débat politique. Eh bien, dans mon histoire d'aujourd'hui, ce sujet de débat va prendre un visage. Le visage d'un petit Algérien de 1 an, Wassim, atteint d'une leucémie aiguë et qui aujourd'hui sans doute serait mort s'il n'avait pas été soigné, greffé, dans un hôpital français, en l'occurrence le CHU de Rouen. Vous allez faire connaissance dans un instant de ses parents, Yacine et Khedija, et si je peux vous raconter leur histoire, c'est grâce à un livre qui paraît aux éditions du CERF, « L'espérance du retour », dont l'auteur est là avec moi, Elisabeth Bourgois. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Vous allez nous expliquer tout à l'heure pourquoi vous vous êtes intéressé longuement à cette histoire que voici. Je l'ai écrite avec Christophe Dumazet, réalisation Céline Lebras.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.
À Oran, en Algérie, Yacine et Khedija se sont rencontrés sur Facebook, figurez-vous, dans une discussion en ligne sur comment comprendre les femmes. Yacine a trouvé que Khedija était différente des autres. Alors il a voulu la voir. C'était en 2011. Et en 2012, les voilà mariés. Yacine vient d'avoir 29 ans, il a fait une partie de ses études en France. À Oran, il a un magasin, une caverne d'Ali Baba où on vend des ordinateurs et de la quincaillerie. Khedija a 23 ans, elle aussi a fait des études. Elle est en train de passer une licence d'anglais, mais pas forcément pour travailler. Elle se destine à être femme au foyer. Et d'ailleurs, assez vite, Khedija est enceinte. Et le 11 août 2014, elle dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Elle accouche par césarienne. D'un petit garçon, Wassim. La famille débarque et comme le veut la coutume, le grand-père, le père de Yacine, se penche sur le berceau et il fait l'appel à la prière dans l'oreille droite du bébé. Et ensuite, il fait des incantations dans l'oreille gauche.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
C'est la tradition. Quelques mois plus tard, le couple s'installe dans un nouvel appartement et arrive le Ramadan 2015. En plein mois de juillet, il fait une chaleur terrible, plus de 37 degrés. Le petit Wassim transpire beaucoup. Ils vont le promener le soir pour lui donner un peu de fraîcheur, mais c'est vrai qu'il est un peu mou, un peu endormi. Pour l'Aïd, ils vont à la plage où ils ont une maison. Khedija lui a acheté son premier maillot. Ils ont emporté des jouets pour qu'il joue sur le sable, mais à peine arrivé, Wassim s'endort comme une souche. Et en rentrant, ils s'aperçoivent qu'il a de la fièvre. Ils lui donnent du paracétamol. Le docteur leur dit « C'est pas grave, pour le refroidir, mettez-lui un linge mouillé. » Le jour de ses 1 an, Wassim s'endort sur son trotteur, épuisé. Et en fin de journée, il est tout pâle. Ses yeux se mettent à gonfler comme son ventre. Et la fièvre monte encore. 40. Ça dure comme ça 3 jours. Ils vont voir un autre médecin, une femme. Il est vraiment très pâle. Je pense que c'est une otite. Nouveau traitement, mais aucune amélioration. Les parents ne dorment plus, ils sont très inquiets. Alors à un moment, Khadija sent que c'est grave. Elle prend son fils dans ses bras, elle court chez le médecin. Il est en consultation, peu importe. Elle ouvre la porte, elle entre dans son cabinet. Le médecin voit Wassim. Vous allez filer tout de suite aux urgences pédiatriques. Je vous fais un mot pour le médecin. Il ne faut pas qu'on vous fasse attendre. Les parents foncent à l'hôpital. On l'ausculte. On lui pose une perfusion. On lui fait un myélogramme, une ponction. Et après, on donne le tout aux parents. Je vous donne les prélèvements. Hein. À l'hôpital, il nous faudrait 10 jours pour avoir les résultats. Allez dans un labo privé. On donne au père une lame et des tubes. Et le père connaît un médecin dans un autre hôpital. Il court lui porter les échantillons à analyser. Et puis il revient. « Ah, c'est bien que vous soyez revenu. Votre fils a besoin de sang d'urgence. Du sang A+. On n'en a pas en réserve. Il faut que vous trouviez des membres de votre famille ou des amis qui ont le même groupe. » Le père doit trouver le sang lui-même. Heureusement, dans le couloir, il croise un interne qu'il connaît. « Ah, tu peux me sauver, mon ami. Mon fils est hospitalisé ici. Il a besoin de sang A+. Il n'y en a pas. J'ai eu mon frère, il est A+. Il peut donner son sang, mais demain. C'est urgent, il faut que tu m'aides. Ok, je vais te trouver du sang. On en a, en vérité. Et ton frère nous donnera son sang demain matin pour le remplacer, d'accord ? Oh, merci. Merci beaucoup. Inch'Allah. Et que ton fils guérisse. »
On de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire vraie d'un petit Algérien d'Oran, Wassim, tel qu'Elisabeth Bourgois, qui sera là tout à l'heure, la raconte dans un livre qui paraît au Cerf, L'espérance du retour. En août 2015, alors que Wassim a 1 an, il s'endort souvent et il a de la fièvre. À l'hôpital d'Oran, on lui fait des prélèvements, mais le père doit les apporter dans un labo privé. On attend les résultats. La nuit qui suit son hospitalisation, seule la mère, Khadija, est autorisée à rester auprès de Wassim. Mais Yassine ne peut pas s'éloigner, alors il va garer sa voiture le plus près possible. Et il reste là toute la nuit, à triturer son téléphone. Dans la chambre, on a commencé à faire la transfusion au petit Wassim. Il a toujours beaucoup de fièvre. Sa mère tente de le rafraîchir avec un linge mouillé. Et puis d'un coup, il se met à trembler. La mère elle-même lui prend la température, 35 degrés. Elle fonce chercher l'infirmière.
« Venez ! Venez vite !»
Le temps que l'infirmière arrive, Khadija revient dans la chambre, elle reprend la température à Wassim. 40 degrés. L'infirmière arrête la transfusion.
Il fait un choc septique.
Elle lui administre un antihistaminique. Et puis elle repart se coucher, sans un mot de plus. À 7 heures, l'hôpital se réveille. Le père déboule dans la chambre dès l'ouverture. Et à 11 heures, il appelle son ami à qui il a donné les prélèvements à analyser.
Yassine, passe-moi le médecin qui s'occupe de ton fils, s'il te plaît. Il faut qu'on fasse un autre prélèvement pour vérifier quelque chose.
C'est pas bon ?
Faut une vérification, Yassine. Passe-moi le médecin, s'il te plaît.
On commence par leur dire. Les analyses de sang ne sont pas bonnes. Les plaquettes sont trop basses. Le taux de globules blancs est trop élevé. Celui des globules rouges est très bas. Ils ne comprennent rien. Et après, on leur donne toute une liste d'examens à aller faire dans l'hôpital. Scanner, échographie. Et pendant la radio pulmonaire, la mère voit des petites boules sur l'écran.
C'est quoi ça, docteur ?
Demandez à votre médecin. À 16 heures, l'hôpital appelle Yassine au téléphone. Et le couperet tombe.
C'est une leucémie, monsieur. Votre fils a une leucémie. Vous devez lui trouver de toute urgence une place à l'hôpital des cancéreux.
Il y a Yacine ne sait pas comment le dire à sa femme. Alors...
Ah, Khedija, j'ai pu réserver une place pour Wassim à l'hôpital El Hassi. El Hassi ? Mais c'est là où on soigne les cancéreux, ça ? Il ne peut pas le lui dire. Il n'y arrive pas.
Et c'est donc l'ami interne qui explique à Khedija. Le lendemain matin.
Alors, on va vous transférer dans une demi-heure dans un autre hôpital. Vous savez, madame, ce qu'a votre fils ? Oui ? On m'a dit qu'il avait une leucémie aiguë. Ah, on vous l'a dit ? Madame, je vais me permettre de vous donner un conseil. En général, je ne fais pas ça, mais... Si vous avez les moyens financiers, je vous conseille d'emmener votre fils à l'étranger, et vite, pour le soigner. Ils sont compétents à l'hôpital El Hassi. Mais un bébé d'un an, honnêtement, ils n'ont pas les moyens. Voilà.
L'hôpital El Hassi d'Oran. Le petit Wassim se retrouve dans un dortoir sinistre, laid et sale, dans un lit au barreau rouillé et à la peinture écaillée, à même le matelas. C'est Khedija qui rajoute un drap. Et le pompon, c'est qu'il y a des chats partout, des dizaines, des centaines de chats qui font leur crotte sous les lits. L'hygiène. Le médecin les reçoit dans son bureau. C'est une leucémie myéloblastique de type LAM5. C'est la pire. Il prend du temps pour leur expliquer et le père ose une question.
Docteur, si c'était votre fils, vous le soigneriez ici ou vous le feriez soigner ailleurs ?
Long silence.
Pour être franc, je l'emmènerai ailleurs. Ailleurs, à l'étranger, ils auront plus de moyens, plus de médicaments. Mais attention, hein. En attendant, là, on va tout faire pour le soigner.
Le soir, Khedija, bouleversée, est avec son petit garçon. Un médecin entre dans la chambre.
Madame, il faut lui donner des plaquettes et très vite. Elles sont extrêmement basses.
Eh oui, c'est à eux de trouver les plaquettes. Qui se débrouille ? Khedija appelle son mari.
Yacine, faut des plaquettes ? C'est urgent, c'est très urgent. Faut absolument lui en passer cette nuit.
En Algérie, seuls les hommes peuvent donner des plaquettes. Pas les femmes. Yacine appelle ses amis, ses frères, on leur fait un test. Deux d'entre eux peuvent donner leurs plaquettes. Sauvés. Le petit Wassim reçoit ensuite une chimiothérapie. Sur un enfant d'un an, c'est très risqué. Mais en l'état, c'est le seul espoir. Une nuit, une infirmière essaye 10 fois de lui poser une perfusion. Elle n'y arrive pas, de si petits bras. Alors, eh ben, elle va se coucher. La mère, vous entendez la mère, qui n'a jamais fait ça de sa vie, pose la perfusion elle-même, du premier coup. Un mois après leur arrivée.
Bon, le bilan sanguin, il est correct. Vous pouvez rentrer chez vous. Revenez dans une semaine pour une nouvelle chimio.
Une nouvelle chimio, oui. Mais pour sauver Wassim, il faudrait une greffe de moelle osseuse. Et en Algérie, sur un enfant de moins de 5 ans, c'est impossible. Il faut l'emmener à l'étranger. C'est la seule manière de le sauver. Yacine commence à envoyer le rapport médical à des hôpitaux français et belges, pourvu qu'ils le lisent. Et les frères lancent des bouteilles à la mer sur Facebook. Et c'est sur Facebook que ça mord. Un coup de fil d'Allemagne.
Allô ? Voilà, nous sommes une association. Et nous sommes prêts à vous verser 70 000 euros, vous comprenez? C'est une grosse somme. Il faudrait que vous nous prouviez votre bonne foi.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire?
Eh bien, écoutez, envoyez-nous 30 000 euros.
Des escrocs. Yacine est tombé sur des escrocs et heureusement, il a senti le coup foireux. Le premier hôpital français à appeler est celui de la Timone, à Marseille.
Les médecins ont étudié le cas de votre fils. Malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Hein. À cet âge-là, on ne peut pas soigner votre enfant. Ça serait vous donner un faux espoir, nous. Nous sommes désolés.
Et ensuite, l'hôpital Robert Debré, à Paris. Idem.
Je n'ai pas le droit de vous donner de faux espoirs. La maladie de votre fils est trop grave. On ne peut rien faire, monsieur.
Un coup de poignard, à chaque fois.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un petit Algérien d'Oran, Wassim. Tel qu'Elisabeth Bourgois, qui sera là tout à l'heure, la raconte dans un livre qui paraît au Cerf, L'espérance du retour. Durant l'été 2015, le petit Wassim, un an qui vit à Oran, en Algérie, se voit diagnostiquer une leucémie myéloblastique. Ses parents s'entendent dire par les médecins algériens qu'il vaudrait mieux l'emmener se soigner à l'étranger. Le père contacte des hôpitaux français et belges. Il essuie plusieurs refus. En attendant, il est maintenant question d'une deuxième chimio, plus forte. Et Khedija, la maman de Wassim, est terrorisée parce que depuis qu'elle fréquente l'hôpital El Hassi, elle a tellement vu d'enfants dans son service mourir d'une chimio trop forte. Ici, les enfants meurent au milieu des mamans, tous les jours ou presque. Il faut partir d'ici, vite. Mais avec quel argent? L'État algérien est sollicité. Il répond: tous ceux qui vous ont incité à soigner cet enfant à l'étranger méritent la prison. Votre fils est en phase terminale. Alors dites aux parents de profiter de lui avant qu'il ne les quitte. C'est tout. Mais les parents obtiennent un visa Schengen et ils prennent un avion pour la France, sans aucun rendez-vous. Est-ce qu'ils reviendront à Oran à deux ou à trois? En France, une tante les accueille à Antony, près de Paris. Et là où? Ils apprennent par un coup de fil d'Algérie qu'un professeur d'Oran leur a pris un rendez-vous avec un professeur d'oncologie pédiatrique au CHU de Rouen, le professeur Fanny, un ponte.
Vous serez accueillis là-bas par une association qui s'appelle Ayada. Ils aident les familles comme vous qui vont chercher des soins en France.
Et les voilà donc à la gare de Rouen. Et maintenant à l'hôpital de Rouen. Quel contraste avec l'hôpital d'Oran. C'est propre, c'est calme. Le professeur Vanier les reçoit, il regarde le dossier et il leur donne rendez-vous pour un bilan complet le lundi suivant. Mais de retour dans leur petite chambre d'hôtel, Wassim se met à avoir de la fièvre et à vomir. Alors il retourne à l'hôpital et là c'est le branle-bas de combat. Le père demande naïvement: faut que j'aille chercher du sang? Ou des plaquettes quelque part? Dites-moi ce que je dois faire. Mais non, non, ne vous inquiétez pas. L'hôpital a tout ce qu'il faut. Le lendemain matin, une infirmière entre dans la chambre.
Bonjour. Je viens pour lui faire sa toilette.
La mère l'a déjà faite, comme elle le faisait à Oran. Or ici, tout est pris en charge. Les toilettes, les biberons, les couches, les médicaments. Les parents n'ont rien d'autre à faire que jouer et rire avec leur enfant. Le professeur Vanier leur dit:
je sais que tout ne vous a pas semblé parfait à Oran, hein? Mais sachez que si Wassim a survécu, c'est grâce au traitement qu'ils lui ont donné là-bas.
Et la bonne nouvelle,
c'est que ça n'est pas une leucémie de type lame 5. C'est une leucémie de type lame 2. C'est moins grave. Une nouvelle chimio est mise en route. 50 fois plus forte que celle que Wassim a reçue à Oran. Et puis une deuxième. Les parents sont maintenant hébergés dans un meublé touristique que leur a trouvé l'association de l'hôpital Vie et Espoir. Et après 10 jours en chambre stérile...
C'est très encourageant. Les blastes ont baissé. Je vous annonce que Wassim est en rémission. Vous pouvez considérer qu'il est guéri. Il y a 60% de chances qu'il soit complètement sorti d'affaire. Vous pouvez rentrer en Algérie.
Ils ne comprennent pas. Ils ont peur. Et si, une fois rentré à Oran, il fait une rechute, hein? Alors le père dit au professeur.
Si vous le voulez bien, par prudence, hein. On va rester ici encore un an, à Rouen.
Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Khédidja tombe enceinte, de jumeaux, ou plutôt de jumelles. Quelle nouvelle! Elle est folle de joie! 2 filles d'un coup! Sauf qu'assez vite, il y a un problème.
Nous sommes, madame, face à un syndrome qu'on appelle transfuseur transfusé. C'est-à-dire que l'un des fœtus capte le débit sanguin aux dépens de l'autre. Si on ne fait rien, vous allez perdre les 2 bébés. Il faut opérer tout de suite. On va organiser ça pour après-demain.
L'opération se passe bien, mais selon la loi de l'emmerdement maximum...
Allô ? Bonjour, ici le service du professeur Vanier. Il voudrait vous voir. Rapidement.
Wassim fait une rechute. Il faut à nouveau l'hospitaliser. Nouvelle chimio et mauvaise nouvelle.
Les cellules cancéreuses ont pénétré le liquide céphalo-rachidien et le cerveau. Nous devrons envisager une greffe dans les plus brefs délais. On a commencé la recherche d'un donneur compatible.
Il y a un autre espoir. Le sang du cordon ombilical des jumelles. Il y a 25% de chances qu'il soit compatible avec Wassim. Et à partir de là, se jouent en parallèle 2 histoires. La naissance des jumelles par césarienne et la greffe de Wassim. Finalement, la césarienne est avancée. La première petite fille sort. Ils ont décidé de l'appeler Malak. Et puis la deuxième, Dayina. Mais dès le lendemain, il y a un problème avec Malak.
Elle a fait 3 arrêts respiratoires. On a dû l'emmener en réanimation. C'est assez grave, non ? Ce serait bien que vous veniez la voir à temps.
Rendez-vous compte, Khédidja a 3 enfants. Ils sont tous les 3 à l'hôpital, dans des services différents. Wassim, qui attend sa greffe, Malak, dont on vient de lui dire qu'elle est condamnée, et Dayena, heureusement, Dayena va bien. Quel destin! On vient chercher Khédidja dans sa chambre.
Venez, madame.
Et on lui met la petite Malak dans les bras. Son cœur bat encore un peu. Si peu. Et il s'arrête de battre. Khédidja est déchirée de douleur. Elle a 24 ans. Elle vient de perdre une petite fille. L'autre est une grande prématurée. Sa vie est si fragile. Et le 3e a une leucémie et il frôle la mort tous les jours. Deux jours plus tard, la petite Malak est déposée dans un cercueil minuscule et elle est mise dans un avion pour Oran. Les parents n'ont pas assez d'argent pour aller l'enterrer eux-mêmes chez eux. Et pendant ce temps, Wassim se prépare pour la greffe de moelle osseuse. On a trouvé un donneur, une donneuse, une Allemande.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire bouleversante d'une famille d'Oran en Algérie. Telle qu'Elisabeth Bourgois, qui sera là dans un instant, la raconte dans un livre qui paraît au Cerf, « L'espérance du retour ». Durant l'été 2015, le fils aîné de la famille, Wassim, un an, se voit diagnostiquer une leucémie myéloblastique. Ses parents l'emmènent en France, à Rouen, seul espoir de le sauver. Au même moment, Khédija, la mère, tombe enceinte de jumelles. Mais alors que Wassim se prépare à une greffe de moelle osseuse, l'un des deux bébés décède. Mais maintenant, il faut préparer Wassim à la greffe. Une chimio très lourde pour détruire sa moelle osseuse malade. Et puis son entrée dans une bulle, une chambre stérile. Et au même moment, on leur dit que la petite Dayena peut sortir. Ils n'ont rien prévu. Ils avaient la tête ailleurs, ils ne savent plus d'ailleurs où ils ont la tête. Et c'est l'association Ayada qui leur trouve une poussette, des vêtements, un berceau. Bien. Le prélèvement va arriver à 14h. On va commencer la greffe à 14h30, d'accord ? Et à 14h30, 12 mois après le diagnostic, la poche de moelle osseuse de la donneuse allemande est connectée au cathéter de Wassim. Maintenant, il faut attendre que la greffe s'installe. Au même moment, Khédija va chercher sa fille Dayena. Elle s'arrête un long moment devant la porte de son fils.
« Faut pas rester là, madame. » Rentrez chez vous, soufflez un peu, dormez et mangez quelque chose. Hein. Vous n'allez pas tenir comme ça, d'autant plus que vous la nourrissez, n'est-ce pas ?
Au bout de quelques jours, Wassim commence à saigner du nez et à faire des œdèmes de plus en plus importants. 14 jours après sa greffe, on les empêche d'entrer dans la chambre.
Madame, monsieur ? Le médecin veut vous voir. Venez.
Wassim fait une MVO. C'est gravissime. On vient de l'envoyer en réa.
En réa ? Mais je viens de perdre ma fille en réa. Il va s'en sortir ? Dites-moi qu'il va s'en sortir.
Je sais pas, monsieur. Courage. On fait le maximum.
Wassim vient d'être emmené là où, il y a quelques semaines, sa petite sœur est morte. Khédija a la tête qui tourne et elle tombe. Et une infirmière la rattrape de justesse.
Respirez à fond. Ouvrez les yeux. C'est bien. Je sais que pour vous, c'est épouvantable tout ça. Mais ici, on a les moyens de sauver Wassim. Tout le monde vous trouve admirable, vous et votre mari. Tout le monde.
Le deuxième jour en réa, le ventre de Wassim se met à gonfler.
On ne peut rien faire de plus. On a fait tout ce qui est en notre pouvoir.
Il a une faible chance de s'en sortir. Très faible. Mais Wassim va s'en sortir. Il y aura des complications, des allers-retours entre l'hôpital et leur petit appartement. Il y aura d'autres nuits d'angoisse, mais Wassim va mieux. Et maintenant, il faut attendre 2021 sans aucune rechute. Et dans 10 ans, on pourra dire que Wassim est guéri. Voilà donc pour cette histoire très touchante, bouleversante même, mais qui pour l'instant se termine bien. Et je suis donc avec Elisabeth Bourgois qui a écrit ce livre « L'espérance du retour » aux éditions du Cerf, d'où j'ai tiré d'un bout à l'autre cette histoire. Un mot peut-être d'abord, Elisabeth Bourgois, sur la situation des parents aujourd'hui. Tout le monde est toujours à Rouen.
Alors tout le monde est toujours à Rouen, le petit Wassim va beaucoup mieux, donc il saute dans mes bras, il m'appelle Tata Zabeth. C'est quelque chose de très fort qui s'est créé entre nous. La petite Diana est toute bellote et toute bien. Et les parents n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir enfin une signature de la part de la préfecture qui les autorise à avoir un droit de séjour par titre humanitaire.
Parce que pour l'instant, ils sont sans papier, soyons clairs.
Pour l'instant, depuis quelques mois, ils n'ont plus aucun statut. Donc ouais. Ils sont sans papier, sans ressources, sans rien.
Leur objectif, c'est quoi?
Leur objectif, c'est de rentrer, de pouvoir surveiller leur enfant au maximum en France, parce qu'il en a encore besoin, et en même temps pouvoir faire des allers-retours en Algérie, parce que comme tout le monde a besoin de son terroir, a besoin de sa famille, les enfants ont besoin de courir, de connaître leurs petits cousins, de mettre leurs pieds dans la Méditerranée, de trouver ce beau pays, enfin, de revivre normalement, et pour les parents, enfin le papa, de retrouver du boulot. Il a, lui, fait ce que ne font pas beaucoup de pères algériens, entre autres, c'est qu'il il est resté avec sa femme. Nombreux sont les pères qui lâchent maman et bébé en France et puis ils retournent au pays et débrouille-toi. Ouais. Ce qui est une catastrophe pour beaucoup, beaucoup de familles.
Là, on a un couple très moderne, en vérité.
On a un couple en même temps très moderne.
Et,
oui,
et
oui.
Très traditionnel aussi.
Et très traditionnel. Toute cette histoire que vous avez racontée avec beaucoup d'émotion, Christophe, en fait, j'aurais demandé aux deux parents de l'écrire séparément sans se concerter. Et ça a été très étonnant parce qu'il y avait le regard de l'homme, de la femme. Et ils ont retrouvé dans leurs souvenirs des points communs et d'autres choses. Ils ont « Tiens, tu as vécu ça à ce moment-là et moi j'ai vécu ça à ce moment-là ». C'est vraiment été une richesse d'écrire ça à trois. Et je voulais aussi, au point de vue donc, de la situation, par rapport à ce que vous disiez au début de l'émission…
Oui, j'ai parlé au début de l'aide médicale d'État.
Oui.
C'est-à-dire que quand Wassim est arrivé en France, on ne leur a pas demandé de faire l'avance de l'argent. Non. On l'a opéré, on l'a soigné.
Oui.
Cela dit, maintenant… Il est question de récupérer une partie de cette somme auprès de l'État algérien, c'est ça?
Alors en fait, si vous voulez, c'est ça un petit peu le problème. C'est qu'il y a des ententes entre les pays, que ce soit avec tous les pays du Maghreb, avec les États-Unis, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre. Quand un étranger vient se soigner en France, théoriquement, le pays d'où il vient participe aux frais. Et malheureusement, tous ces pays que je viens de citer doivent énormément d'argent à la France. Je pense que ça irait mieux si on arrivait à recouvrir cet argent.
Mais personne
ne paye.
Par contre, la France,
personne ne paye.
L'Algérie n'a pas payé pour l'opération de Wassim.
Ben voilà.
C'est-à-dire, c'est le contribuable français à ce jour qui a payé. On est d'accord.
Oui, c'est tout à fait ça. Mais ils ont sauvé la vie de cet enfant qui vraiment ne devrait pas être là. Moi, je me dis, il a un destin particulier. Et c'est ça aussi l'explication du titre du livre « L'espérance du retour ». C'est que Yacine et Khadija n'ont pas envie de vivre au crochet de la France. Ils veulent rentrer chez eux.
C'est
des problèmes de visa aujourd'hui et de papier. C'est tout bête, quoi.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire? Je me suis beaucoup posé la question en lisant votre livre, en écrivant cette histoire, parce que pour moi, c'est une opportunité formidable de raconter une histoire comme celle-là de l'intérieur. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'une dame française qui doit avoir à peu près mon âge, dans la cinquantaine...
Oh, c'est gentil, Christophe.
tout d'un coup, s'intéresse à cette histoire très singulière de ce couple d'Algériens.
En fait, moi, je suis infirmière de base et j'ai écrit énormément de romans basés sur vraiment les maladies diverses et variées. Et alors, c'est ça le mystère, parce que je suis devenue copine sur Facebook avec la grand-mère du petit Wassim.
Ça commence comme ça.
Ça commence comme ça. Et puis, comme souvent, on voit des visages d'enfants dans un état abominable et on appelle au secours parce qu'il faut de l'argent. Et je ne sais pas pourquoi, cette famille m'a tapé dans le cœur, quoi. Et un jour, avec beaucoup de prudence, beaucoup, beaucoup de prudence, j'ai donné un premier coup de fil aux parents. Comme ça. Et puis après, je suis allée les voir avec d'autres personnes algériennes. On a partagé le couscous. comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais quand même, ils ont besoin d'aide. Et moi, la seule chose que je sache faire, c'est écrire. Voilà. Donc, j'ai mis ma plume à leur disposition. Ils ont réfléchi. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi très, très discrets, parce que pour eux, cette histoire, c'est une histoire universelle. Et ce que me disait le professeur Vanier, c'est de l'expliquer, montre qu'il y a énormément de gens qui vivent la même chose, mais qu'on va peut-être juger d'extérieur. Moi, j'étais comme tout le monde. D'abord, on a une grosse différence de culture et de religion. Donc, on a essayé de s'apprivoiser l'un l'autre. Il y a une espèce de confiance absolument extraordinaire qui s'est créée entre nous et qui m'a permis de faire ce livre.
On va marquer une pause. Je veux qu'on revienne au tout début de l'histoire, à la prise en charge en Algérie. Ce que vous racontez sur la prise en charge du petit Wassim en Algérie est absolument terrifiant. Et en même temps, on voit qu'ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils l'ont sauvé, mais que ça n'aurait pas été suffisant.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Christophe Ondelat sur Europe 1 qui vous raconte l'histoire d'un petit garçon aujourd'hui, un bébé malade qui a fait s'unir l'histoire de deux pays, la France et l'Algérie. Et on revient sur cette histoire avec l'auteur de L'Espérance du Retour, votre invité Christophe.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un petit Algérien de 1 an qui s'appelle Wassim, atteint d'une leucémie aiguë et qui n'est sauvé que par la décision de ses parents de venir le faire soigner en France au CHU de Rouen. Une histoire que j'ai tirée du livre d'Elisabeth Bourgois, L'Espérance du Retour, qui paraît aux éditions du Cerf. Et vous êtes là, Elisabeth Bourgois, et il faut qu'on revienne au début de l'histoire, à ce moment où la maladie est diagnostiquée, puisqu'il y a plein de choses positives, en fait, dans ce début d'histoire en Algérie. Ils savent diagnostiquer cette maladie. On n'est pas dans un système médical totalement défaillant. D'autres pays n'auraient pas su poser le diagnostic. Ils savent le poser. Mais il y a ce moment terrible où ils doivent dire aux parents, si vous voulez vraiment qu'ils vivent, alors il faut partir.
En fait, il y a des. J'ai pu visiter cet hôpital oncologique. J'ai été ahurie en tant qu'infirmière. En quelques minutes, on se rend bien compte des choses. Il y a des cliniques, des hôpitaux de très très modernes, mais pas réservées à la population ordinaire. Et en fait, même en Algérie, j'ai retrouvé une enquête récente où il y a plus de 9300 médecins algériens qui travaillent en France, faute de pouvoir exercer leur art comme ils le voudraient en Algérie.
Avec une juste rémunération, je suppose.
Une rémunération un peu mieux.
Donc et la en plupart, fait, on a... l'élite des médecins algériens, en fait, est chez nous.
Oui, mais non, il y a aussi des très bons médecins en Algérie. Le problème, c'est un problème de... Je crois que là-bas, ça peut-être explique aussi toute cette crise algérienne d'aujourd'hui, où on a une capacité, on a un pays qui est magnifique. Enfin, moi, j'ai été subjuguée par la beauté de ce pays.
Mais si on n'a pas de pistons, on n'est pas soigné.
Ouais, mais il y a aussi énormément de jeunes Algériens formés, éduqués, qui suivent des grandes études et qui se retrouvent tout d'un coup avec un manque de moyens, ce qui fait que s'il faut chercher du sang, s'il faut chercher pour avoir un scanner, s'il faut chercher la greffe là-bas, on ne la fait pas avant l'âge de 5 ans. Donc l'enfant étant trop petit, on s'est dit, on leur a dit aux parents, avec le coût pour votre enfant, avec ça, on pourrait en soigner 4 autres. Ça ne vaut pas la peine.
La position des médecins qui les prennent à part et qui leur disent, si j'étais vous, j'irais en France. Oui. Parce que c'est ça qu'ils disent, en vérité. Il n'est pas question d'aller ailleurs qu'en France. La plupart d'entre eux ont été formés en France, ont fait une partie de leurs études en France.
Oui, mais il y en a aussi l'Allemagne ou l'Angleterre aussi, qui accueillent pas mal.
Et donc leur position est folle, quoi.
Non, elle est... on fait ce qu'on peut. D'ailleurs, ils ont sauvé le...
Ils l'ont sauvé.
On fait ce qu'on peut et on a les bras cassés parce qu'on ne peut pas aller plus loin que la capacité que l'on a sur un plan technique.
Et ils mentent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent on n'a pas de sang à plus. Ils en ont.
C'est tellement
ce qu'on découvre par l'ami interne.
Mais ils en ont tellement peu en réserve qu'il faut que cette réserve elle soit réalimentée en permanence par les malades eux-mêmes, les parents des malades. Et d'ailleurs, Redidja avait repéré que les prises de sang se faisaient régulièrement. Donc, elle faisait venir du sang à l'avance. Elle se disait, si j'en ai pas besoin, je vais le donner à la maman d'un autre petit qui en a besoin. Sinon, l'enfant va mourir.
Et c'est ça, le système. Il fonctionne pour tout le monde comme ça.
Ça fonctionne, c'est le système D.
Il faut trouver soi-même
le sang, les plaquettes, les médicaments, les couches, la nourriture.
Même la nourriture. Ouais. J'ai pas eu le temps de leur raconter ça.
C'est un peu effarant.
Même la nourriture du bébé.
Qui n'est pas adaptée au bébé, non.
C'est-à-dire que la nourriture qui est à l'hôpital n'est pas adaptée au bébé et la mère, qui est déjà, doit demander à Yacine d'aller faire des courses pour lui porter à manger pour l'enfant.
Voilà. Ouais. Et alors, ce qui était terrible pour Yacine, le papa, c'est que l'hôpital, les chambres sont interdites aux pères, aux hommes. Donc, lui ne pouvait voir son fils qu'une heure dans le hall d'entrée pendant les visites, si le petit était capable physiquement
d'aller dans le hall,
d'être porté jusqu'à son père.
Bon, en vérité, il y va.
C'est-à-dire, il passe par les couloirs le soir et
ouais,
il
mais
se faufile.
Ça a été quand même très compliqué pour lui.
Il y a un côté, je me regarde, je me désole, je me compare, je me console dans votre histoire.
Oui.
C'est-à-dire, dans la seconde où ils mettent les pieds en France, on gonfle un peu le torse, on dit, ah, chez nous quand même. Notre médecine se tient, nos hôpitaux se tiennent.
Ah ouais, mais c'est extraordinaire. Et toutes les équipes médicales, et d'ailleurs ce livre, on l'a offert à tous les membres de l'hôpital de Rouen pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Mais n'empêche que quand on s'imagine soi-même avoir un enfant malade, devoir courir dans un pays étranger, tout abandonner, son métier, son boulot, sa famille, sa culture, sa religion, tout pour son enfant, et se retrouver avec cette obsession, c'est mon enfant, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Enfin, on ne vit plus du tout une vie normale. Et c'est vraiment compliqué. Et ce que vit ce jeune couple, il est vécu par des tas de gens. Donc,
mais votre histoire, d'une certaine manière, contribue à nous rendre assez fiers de notre système.
Ah, je pense qu'on peut être heureux.
Qui est si critiqué
en
ce moment.
Bah, bien sûr. Oui, mais en tant qu'infirmière, je me rends compte aussi que les conditions de travail sont vraiment compliquées aussi. C'est épuisant, ça devient de plus en plus technique. Et pour un salaire ridicule. Donc voilà, mais vive la France, vive la France.
Il y a tout de même justement concernant les hôpitaux français, deux épisodes que j'ai trouvés intéressants et qui me laissent songeur. Le refus de l'hôpital de la Timone qui dit que cet enfant est incurable et le refus de Robert Debré qui dit que cet enfant est incurable. Il n'est pas incurable puisqu'il est soigné quelques temps plus tard à Rouen. Il était sans doute soignable à la Timone. Et
oui, mais il ne l'avait pas vu. Ils avaient jugé sur un dossier et avec, entre autres, une erreur de diagnostic de la part de
sur le LAM5, LAM2.
Voilà. Et c'est à Rouen où ils ont refait les examens. Le grand-père a apporté les premières lames en avion. Il a apporté tout ça pour vraiment faire une comparaison. Et c'est parce que l'enfant était en détresse qu'ils l'avaient devant eux qu'ils l'ont sauvé.
Je me suis demandé tout de même si quelques hôpitaux français n'essayaient pas de repousser ces dossiers venus de l'étranger qui leur coûtent cher, disons les choses,
peut-être,
possiblement.
Peut-être.
Dans un instant, il faut qu'on parle évidemment de cette histoire dans l'histoire, c'est-à-dire de ce moment où Khedija tombe enceinte et où ça se passe mal encore.
Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat avec une émission poignante. Aujourd'hui, un témoignage, celui d'une famille qui a tout fait pour sauver son bébé. Nous allons plus loin au cœur de cette histoire avec votre invité, Christophe.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un petit Algérien qui s'appelle Wassim, qui est atteint d'une leucémie aiguë et qui n'est sauvé que par la décision de ses parents de venir le faire soigner chez nous en France, au CHU de Rouen. C'est une histoire que j'ai tirée d'un livre formidable qui sort aux éditions du Cerf, qui s'appelle « L'espérance du retour » et qui est signé Elisabeth Bourgois, qui est là en face de moi. Alors il y a un épisode qui est... Il y a un moment, j'ai appelé ça la loi de l'emmerdement maximum, et il y a un moment où on se dit, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il leur arrive tout ça ? Elle tombe enceinte, donc c'est presque la bonne nouvelle qui viendrait redonner un peu d'espoir, mais non. Elle met au monde deux jumelles, et l'une de ses deux enfants meurt 4 jours après la naissance. Et donc le système médical français sauve Wassim, et il sauve l'une des deux jumelles,
oui,
car en vérité, en Algérie, elles seraient mortes sans doute toutes les deux.
Ah oui. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que leurs deux enfants sont sauvés par le système médical français.
Oui, et c'est vrai qu'il y a un passage où le pauvre papa Yassine, et là, il ne sait plus dans quelle chambre d'hôpital aller. Il ne sait plus s'il doit aller voir son petit garçon qui est dans une chambre, sa femme qui est en maternité, sa petite Malak qui est en réa, et l'autre qui est enfin, c'est inconcevable. C'est pour ça que même dans le livre, je me suis arrêtée en disant « Bon, je laisse le lecteur souffler. Cette fois, ce n'est pas du roman parce que mon éditeur aurait dit « Non, vous exagérez. » C'est vraiment une situation, ce qu'on appelle un nœud dramatique majeur, mais c'est vraiment un nœud dramatique majeur.
Moi, j'appelle ça la loi de l'emmerdement maximum, mais vous avez raison,
oui,
c'est un nœud dramatique majeur.
Mais alors qu'en fait, au moment où on a annoncé à Khedija qu'elle était enceinte, en plus de deux petites filles, elle a eu le fou rire de sa vie. Parce que tout d'un coup, c'était cet enfant lui redonner goût à la vie. Et c'est vrai que cette petite Diana, qui est toute bellote, toute mignonne, toute discrète, toute souriante, elle est un support, elle a une espèce de puissance malgré, voilà, qui est extraordinaire. C'est quand même un cadeau là. Enfin, un cadeau.
Ils ne peuvent pas rentrer en Algérie pour enterrer leur bébé mort. Ça,
non.
C'est une.
Non, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'auraient pas pu rentrer, ils n'avaient pas de visa.
Il n'aurait pas pu revenir.
Non. Je suis allée à Oran, sur la tombe de la petite Malak, avec l'autre grand-mère. Donc c'est moi qui suis tombée en pleurs, parce que c'est très très émouvant. Très émouvant. Et là aussi, c'est pour ça, l'espérance du retour. Aller voir leur petite fille là-bas.
Alors on a compris que vous ne doutez pas de la nécessité pour un pays riche comme la France de soigner ces enfants-là. Vous savez aussi que inévitablement, cette histoire va faire débat sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Vous n'avez aucun doute là-dessus. La France doit continuer d'accueillir tous ses enfants, de les soigner tous, même si elle ne récupérera jamais un euro.
Il y a plusieurs points dans ce que vous dites. Il y a d'abord la grandeur d'une société civilisée qui est la valeur de la vie. Voilà, c'est ça. L'autre chose, c'est d'avoir une politique qui permette avec raison, de pouvoir se faire payer par les pays qui ont de l'argent. L'Algérie a de l'argent. L'Algérie n'a mais peut-être pas bien les moyens, je ne vais pas faire de la politique ni l'économie.
Oui, voilà, ils ont du gaz. Avec l'argent du gaz, ils pourraient payer les factures des hôpitaux français.
Ben oui. Et puis surtout, faire ça chez eux, parce qu'ils ont les capacités humaines, ils ont les capacités financières. C'est simplement une histoire de réorganisation.
Et de volonté.
Et de volonté. Et les gens, c'est pas agréable d'aller se faire soigner dans un autre pays. On est bien plus content de se faire soigner chez soi. Donc c'est vraiment toute l'aide qu'on pourrait leur donner, c'est... Vous savez, j'ai quelquefois l'impression, en ayant visité Oran, c'est qu'on voudrait mettre un joli palmier à pousser dans nos pays lointains, en Sibérie par exemple. On a besoin de sa terre, on a besoin de sa culture, des odeurs, du rythme de vie qu'on connaît bien. Et c'est déjà difficile d'avoir un enfant malade quand en plus on
est déraciné.
On est déraciné, c'est une catastrophe. Donc il y a les deux choses, il y a la grandeur humaine, c'est-à-dire que on se doit de soigner tout le monde. Et puis, il y a une raison économique et où il faut vraiment s'y attacher. Il faut vraiment réfléchir à ça.
Est-ce que vous avez une idée parce qu'on voit qu'il y a des associations qui existent, des dispositifs en vérité sont en place qui accompagnent tout ce système des Algériens, Marocains et Tunisiens probablement tout autant, venant se faire soigner en France. Vous avez une idée du nombre d'Algériens qui viennent se faire soigner dans le système hospitalier français chaque année?
Non.
Aucune idée.
Je sais par exemple que l'association Ayada qui les a accueillis à Rouen fait vraiment énormément pour leur trouver un logement, pour retranscrire les papiers, pour enfin tout. Vous avez l'association Vie et Espoir aussi qui les a beaucoup aidés, est attachée.
La présence du système associatif semble indiquer qu'ils ne sont pas tout seuls.
Ils ne sont pas tout seuls. Mais une fois que l'enfant est à peu près sorti de l'eau, hop, on laisse tomber la famille. Forcément, on ne peut pas tout faire.
Merci Elisabeth Bourgois de m'avoir confié cette histoire que vous retrouverez, vous qui nous écoutez, dans ce livre qui s'appelle L'espérance du retour, qui paraît aux éditions du CERF. Rendez-vous demain, 2h de l'après-midi. Et dans un instant, Olivier Delacroix sur Europe 1. Salut!
Merci beaucoup Christophe Ondelat et à demain, 14h en effet sur Europe 1, pour une autre histoire, un autre témoignage, celui de Salia Ben Ali, une saga familiale qui commence par la décision de son père tunisien d'émigrer en Belgique et qui se termine par le départ de son fils Sabri parti faire le djihad en Syrie, une mère face à l'islamisme. C'est l'histoire que vous raconte demain Christophe Ondelat à partir de 14h sur Europe 1.